Chères auditrices et auditeurs, je vous sollicite aujourd'hui pour trois choses importantes. Et je vous promets, je vais être rapide. La première, j'ai lancé un sondage pour mieux vous connaître et faire évoluer mon travail. Si vous avez 5 minutes, cela m'aiderait énormément que vous y répondiez. Le lien est en description des derniers épisodes du podcast. Deuxième point, gagner ma vie avec le podcast est un gros challenge en ce moment. Pourtant, vous êtes de plus en plus nombreux ici. Alors si vous avez des contacts d'entreprises ou de fondations dans l'enfance, dans l'éducation, dans l'enseignement, dans la transmission, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et enfin, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée en cliquant par exemple sur « Suivre » sur Apple Podcast ou « S'abonner » sur Spotify. Cela m'aide beaucoup à remonter dans les fameux algorithmes des plateformes. En tout cas, je tenais à vous remercier infiniment d'être toujours aussi nombreux à nous écouter. À très bientôt. Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bonjour à tous. Nous vous présentons aujourd'hui une thématique passionnante, le cerveau de l'enfant. Pascal Toscani, grande spécialiste des neurosciences de l'éducation, nous partage avec passion les enseignements essentiels des neurosciences sur l'intelligence, l'apprentissage et le développement cognitif des enfants. Nous avons parlé de neuromythes, comme ce fameux « tout se joue avant 6 ans », de QI, de regard, de bienveillance, de l'école du 21e siècle et surtout des complexités remarquables du cerveau de l'enfant. Alors un grand merci à Pascal pour son temps, cet épisode était si éclairant. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Bonjour Pascal.
Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder votre temps aujourd'hui pour parler du cerveau des enfants. Alors pour vous présenter très rapidement, vous êtes psychologue, docteur en psychologie cognitive, responsable du GREN Monde, une unité de recherche en neurosciences éducatives, maître de conférences et auteur notamment de l'ouvrage « Comprendre le cerveau de son enfant », livre qui a inspiré cette interview. Bref, vous êtes une grande spécialiste du cerveau de l'enfant pour notre plus grand bonheur. Et pour démarrer cette interview, j'aimerais comprendre pourquoi vous êtes intéressée aux neurosciences de l'éducation.
Alors, les neurosciences de l'éducation, c'est d'abord une grande aventure parce que elles sont relativement récentes. On parlait de neurosciences, les neurosciences ne sont pas récentes, mais les neurosciences de l'éducation, c'est relativement récent. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé mes études de psychologie, la psychologie cognitive, en fait, s'appelait psychologie expérimentale et c'était assez peu développé. Parce que finalement, alors je ne sais pas si vieille que ça, mais on savait assez peu de choses sur le cerveau. Et voilà, que dire finalement, je crois que le développement de la personne m'a toujours passionnée. Et c'est toujours difficile pour moi, ça a été difficile de faire le choix entre la psychologie clinique puis la psychologie cognitive. Finalement, j'ai terminé par associer ces deux champs. Parce que je crois que le développement psychique et le développement cognitif sont totalement indissociables. Et voilà, puis les neurosciences cognitives, les connaissances sur le cerveau évoluent très rapidement et ça aussi, c'est totalement passionnant. Et voilà, pourquoi avoir voulu travailler particulièrement dans le champ de l'éducation? Je crois que l'enfance, c'est en tout cas pour moi le moment le plus extraordinaire de la vie.
Oui, c'est sûr. Et alors, quels souvenirs gardez-vous de votre enfance et de votre scolarité?
Alors, de la scolarité, un très, très mauvais souvenir. Je crois que je n'ai pas été du tout heureuse à l'école parce que je crois qu'il n'y avait pas de bienveillance. Et alors, moi, je vivais dans un petit village d'altitude en Alsace. Et certains enfants, sans doute la plupart d'entre eux, vivaient dans des conditions assez difficiles. Certains venaient de fermes éloignées, pour se rendre à l'école, par exemple. Donc, en hiver, ben, c'était compliqué pour eux parce que il y avait pas de chasse-neige, comme pas comme aujourd'hui. Donc, les enfants arrivaient mouillés, le soir, ils partaient, il faisait nuit. Voilà. Je crois qu'il y avait pas, il y avait pas de prise en compte de l'enfant en tant que personne. Et je crois que c'était une éducation aussi qui était assez basée sur la peur, la sanction, parfois l'humiliation aussi. Donc, non, j'ai pas du tout aimé l'école, mais en tout cas, j'aimais apprendre. Je crois que j'avais aussi des difficultés d'apprentissage à cause d'une surdité qui est arrivée, qui a été repérée assez tard. Mais voilà, la loi de 2015 n'existait pas encore. Donc, on faisait pas cas, en fait, des difficultés des enfants. Puis je crois qu'on faisait pas cas des enfants en tant que personne. Pourtant, encore une fois, je sais pas si âgé que ça, mais non, je garde pas du tout de souvenirs heureux de l'école.
Ouais. Et justement, vous essayez de partager au plus grand nombre toutes vos découvertes sur les neurosciences de l'éducation pour justement faire évoluer cette éducation-là. Et j'aimerais mieux comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on entend autant parler des neurosciences de l'éducation depuis ces dernières années.
Eh bien, parce que je crois que depuis qu'on a mis un cerveau dans un IRM-F, et qu'on a pu comprendre comment le cerveau fonctionnait grâce à cette imagerie cérébrale, eh bien, on s'est rendu compte que finalement, nous nous étions beaucoup trompés. La mémoire n'est pas ce qu'on imaginait, le système attentionnel n'est pas ce qu'on imaginait. Ça a été le début d'une très, très belle aventure de redécouverte, finalement, de découverte du fonctionnement du cerveau. Ça a été aussi une histoire de crispation, puisqu'il a fallu bousculer ses représentations, changer de paradigme. Mais je crois que il était totalement évident que les neurosciences s'invitent à l'école parce que j'ai envie de dire ça modifie considérablement la représentation de l'apprentissage. Il y a d'autres choses à faire que de mettre les enfants assis derrière un bureau avec une personne qui parle, même si l'enseignement n'est pas ça aujourd'hui. Mais je crois qu'on est plus ça aujourd'hui. Mais je crois qu'on est encore dans une école qui est très comportementaliste, avec je dirais comme ça, je suis pas sûre que ça ferait toujours plaisir, mais d'une logique cruche-peau, dans le sens où on pense encore qu'apprendre, c'est intégrer un certain nombre d'informations et les incurgiter. Et je crois que apprendre, c'est tout sauf ça. Donc, il y a vraiment une possibilité de réimaginer l'école aujourd'hui, surtout au XXIe siècle, et en particulier après cette crise sanitaire. Je crois qu'il y a des choses à comprendre pour modifier considérablement le système scolaire grâce à toutes ces connaissances-là.
Oui. Et vous travaillez notamment et vous partagez surtout beaucoup de vos réflexions sur les idées reçues sur le cerveau des enfants depuis le début de votre carrière. Alors pourquoi justement lutter contre ces fausses croyances sur le cerveau des enfants ?
Je crois que, sans doute parce que les idées reçues, je crois, sont formellement mauvaises de toute façon, surtout quand elles sont fausses. Et je crois que concernant le fonctionnement cognitif, un ouvrage a particulièrement participé à ces idées reçues. Il s'agit de l'ouvrage de Dodson qu'ont lu peut-être nos mères ou nos grand-mères avec ce titre incroyable qui s'intitulait donc « Tout se joue avant 6 ans ». Tout. Qu'en est-il alors de la vie après les 6 premières années? Et je crois que c'est inutilement culpabilisant pour les parents qui vont avoir l'impression de devoir tout faire pendant les 6 années fatidiques en se mettant la pression et donc forcément en mettant la pression ou du moins à partager cette pression avec leurs enfants. Alors ça me rappelle un ami qui me relatait une histoire. Il me disait, ben tu sais, voilà, il s'agit d'un papa, d'une maman accueillant leur nouveau-né tenu entre deux avec amour. Le bébé tient dans les larges paluches du papa. Ils se regardent et ils se disent, ben dans 6 ans, tout est fini. Alors, c'est drôle, mais à la fois, c'est terrible, quoi. Les idées reçues sur le cerveau sont rarement à l'avantage des apprenants. Elles sont un peu comme des couperets. On peut citer le cerveau des filles et des garçons sont différents, les garçons apprennent mieux les mathématiques que les filles, la musique rend intelligent, il y a un âge où l'enfant atteint ses limites cognitives. Bref, toutes ces fausses représentations du cerveau, j'ai envie de dire, sont des empêcheurs de se développer en rond. Cessons de se représenter les humains forme de catégorie ou possible, pas possible. Je crois que ces idées reçues maintiennent dans une forme de résistance vraiment face à l'évolution de la conception du développement humain. C'est malheureusement encore le cas à l'école. Je crois qu'il faut apprendre à penser autrement.
Et alors, vous êtes revenu sur un certain nombre d'idées reçues. Donc, vous avez parlé de cette fameuse phrase « tout se joue avant 6 ans ». Peut-être que vous pourriez nous expliquer pourquoi c'est complètement faux.
Alors, c'est toujours intéressant d'essayer de comprendre l'origine des mythes. des neuromythes. Et je crois qu'il faut aussi se replacer forcément dans le contexte historique. À l'époque de Broca en particulier, lorsque évidemment il n'y avait pas d'imagerie cérébrale, que faisait-on pour comprendre le fonctionnement du cerveau? Eh bien, au décès de la personne, et là entre autres de l'enfant, on retirait le cerveau pour essayer de comprendre sa constitution, et un cerveau de 6 ans a à peu près la taille d'un cerveau adulte. Donc il était relativement logique de penser que, puisqu'il a atteint la taille du cerveau adulte, eh bien, il avait terminé son développement. Et ça a peut-être contribué à cette idée que tout se joue avant 6 ans. Mais tout ne se joue pas avant 6 ans parce que l'enfant a la vie pour se développer, parce que la vie est faite de rencontres, d'expériences variées qui vont enrichir, j'ai envie de dire, la personnalité qu'il a. Ça va l'aider à modifier son regard sur le monde. En tout cas, je vous disais que moi j'avais eu du mal à choisir entre la clinique et la neuroscience cognitive. Je suis aussi psychothérapeute et je reçois des enfants ou des enfants devenus grands qui ont une vie qui a bien mal commencé et qui a continué parfois à être terrible et pourtant, ils tiennent debout. Alors bien sûr, les premières années sont très importantes parce que l'enfant va projeter ses premières compréhensions vers sa vie future et puis certains enfants comprendront bien des années plus tard que la vie n'est pas un éternel recommencement de catastrophe. Mais rien n'est joué et c'est très très important d'avoir ce regard sur l'enfant que l'on aide à vivre. Sinon, finalement, si tout est joué, pourquoi se lever tous les matins? Quel est le sens de la vie si tout est déjà joué? Ça n'a pas de sens. Je crois que c'est vraiment le message le plus terrible que j'ai pu entendre.
Je suis bien d'accord. Alors, il y a un autre message aussi dont on a beaucoup entendu parler, moi je trouve, notamment dans mon enfance, c'est que l'intelligence serait grandement définie par le QI.
Oui. Alors, c'est intéressant de savoir quelles sont les représentations des gens qui disent que l'intelligence serait définie par le QI. Je crois que plus on avance dans les neurosciences, plus il est difficile de déterminer ce que pourrait être l'intelligence. En tout cas, ça n'appartient qu'à moi, hein, mais l'intelligence, à mon sens, ne peut pas être définie par le QI. Le cerveau est extrêmement complexe et on est loin d'avoir compris les contours de son fonctionnement. Le QI, c'est un indicateur statistique, c'est pas un indicateur biologique. Et se limiter au QI pour prendre des décisions d'orientation, d'embauche, pose un sacré problème déontologique. C'est un regard très limité, très restreint sur toutes les potentialités humaines. Et la manière dont sont constitués ce qu'on appelle les tests de QI est très particulier. Ça se passe dans une pièce avec un intervenant évidemment, mais sans doute que ce n'est pas oublié parce que les psychologues qui font passer ces tests ont bien conscience de par exemple du stress de l'enfant ou de ses représentations. Mais l'intériorité de l'enfant est très très complexe aussi. C'est-à-dire qu'un enfant qui sait qu'il va passer un test de QI souvent peut comprendre des questions, mais un mot peut-être va l'entraîner vers un univers de représentation qui n'est pas celui qui est attendu, et pourtant, il a la bonne réponse. Il y a aussi des enfants qui ne s'autorisent pas à donner les bonnes réponses. Il y a aussi des enfants qui savent qu'ils sont testés, donc ils sont dans un stress absolument incroyable, et je ne suis pas sûre que tout ça soit vraiment pris en compte. En tout cas, ce dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas un indicateur biologique. Et ça peut être intéressant de QI quand ça donne des indications pour pouvoir aider l'enfant, mais en aucun cas pour déterminer ce qu'on appelle l'intelligence.
Tout à fait d'accord. Alors, il y en a une autre fausse croyance aussi que vous expliquez dans votre ouvrage, c'est que l'intelligence serait innée. Alors, qu'en pensez-vous ?
Alors, je crois que c'est pire parce que dire que l'intelligence est innée, finalement, c'est lui conférer une origine génétique. Or, personne, à ce jour, n'a découvert la génétique de l'intelligence. Et je crois que dans ce cas, ça signifie, avec ce regard en s'appuyant sur la génétique, et comme je vous le disais, personne n'a découvert la génétique de l'intelligence, ça signifie que finalement, si c'était le cas, mais qu'on serait pas encore sorti d'une conception eugénique de l'apprentissage et de l'intelligence. Et même si un jour nous trouvions les gènes de l'intelligence, la génétique n'expliquerait pas tout. L'enfant évolue dans un environnement qui évolue beaucoup son évolution, qui influence beaucoup son évolution. Donc je crois qu'on cherche désespérément aujourd'hui des indicateurs. Je crois qu'il faut lâcher avec ça. Alors c'est très intéressant, évidemment, et fondamental de comprendre comment fonctionne l'intelligence, surtout quand il s'agit d'aider les enfants à apprendre mieux, mais se bloquer sur une représentation innéiste déterminée par un QI, je crois que c'est pas favorable au développement de l'humanité.
Non, c'est certain. Alors, il y avait aussi autre chose dans votre ouvrage. Vous avez noté une autre idée reçue sur les profils d'apprentissage spécifiques,
oui.
Notamment quand on parle des mémoires des enfants ou d'autres sujets comme ça. Peut-être que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette idée des profils d'apprentissage spécifiques et pourquoi, encore une fois, c'est faux.
Alors, c'est vrai que lorsqu'on parle de profils d'apprentissage, aujourd'hui en particulier, je crois qu'il est beaucoup fait allusion à Howard Gardner qui a utilisé les termes de intelligence multiple. Ou d'ailleurs à Antoine de la Gandrie avec une classification des comportements cognitifs que lui basait sur ce qu'il appelait les gestes mentaux. Il parlait de modes d'éducation visuels, auditifs, kinesthésistes. Et de la même façon, je crois qu'on a enfermé les enfants. C'est terrible cette manie qu'ont les humains à vouloir absolument catégoriser. Et du coup, même si la Gardnerie a dépassé un petit peu ce regard simpliste, je crois qu'il est faux, et sans doute peut-être dangereux, mais faux de penser que l'enfant serait prioritairement visuel ou auditif, kinesthésiste. Parce que je crois que le cerveau est extrêmement complexe. Donc, concernant les intelligences multiples, évidemment, le cerveau n'est pas catégorisé en 8 intelligences, parce que le cerveau, comme je viens de le dire, est très complexe. D'ailleurs, en 1980 et même en 2000, Gardner n'avait sans doute aucune idée de ce qu'on appelle la théorie du cerveau bayésien. Mais d'ailleurs, j'ai envie de dire, la vision de la catégorie des intelligences ou des profils d'apprentissage a été utilisée par l'école elle-même. Alors, pour le meilleur, quand il s'agit d'ouvrir des pistes de différenciation, parce que les intelligences multiples sont très intéressantes pour la différenciation pédagogique. C'est comprendre aux enfants, finalement, qu'il y a plein de manières de comprendre et de redonner une information. Je trouve ça plutôt extrêmement favorable. Mais je crois que l'école a aussi agi pour le pire lorsque il s'agissait de coller des étiquettes sur le front des élèves. J'étais hier avec des personnes qui souhaitaient compter, comptabiliser, calculer, je sais pas quoi, enfin bref, avec des questions, des profils d'élèves pour les orienter vers des filières professionnelles. Et c'est vrai que ça, je trouve ça assez terrible. Je crois qu'il faut pas, l'école a rangé l'élève dans les boîtes. Les profils rangent les élèves dans les boîtes destinées à être orientées. L'école fait ça aussi, elle n'a pas besoin des intelligences multiples pour ça d'ailleurs. Hein. Mais l'école a une longue histoire de catégorisation par le jeu des filières. Et je pense que les profils d'apprentissage servent cette représentation de catégorisation par le jeu des filières. Donc finalement, ce sont tous en boîte très très bien dans cette logique-là. Mais je crois qu'il faut comprendre que enfermer l'enfant d'une catégorisation, c'est extrêmement grave. Parce que c'est un test, c'est un moment de son histoire, mais ce n'est pas ce qu'il est. C'est juste un moment de son histoire. Et on sait aujourd'hui, par exemple, que les enfants qui sortiront dans 5-6 ans avec leur bac en poche changeront à peu près 6 fois de métier et au cours de leur vie. Donc aujourd'hui, on n'enferme pas les enfants dans une formation avec un niveau de compétence. Les compétences sont multiples aujourd'hui. Les enfants sont capables d'aller chercher des informations dans le monde entier. Ils le font très très bien, contrairement à ce que l'on peut imaginer. Donc non, c'est très appauvrissant d'enfermer les enfants dans des profils d'apprentissage. Le cerveau ne catégorise pas en profil.
Sylvie, tu veux rajouter quelque chose ?
Ah oui, parce que déjà, je voulais revenir sur « Tout se joue avant 6 ans ». Parce qu'en fait, moi, j'avais lu ça quand j'ai eu mes enfants, il y a 33, 34 ans. Et j'ai ma fille qui a eu un cancer, donc à 3 ans. Et donc, oui. Plus dans les hôpitaux entre 3 et 6 ans. Et pour moi, c'était une catastrophe, quoi. Je me disais, mais mon Dieu, tout se joue avant 6 ans. Et la pauvre, elle a passé sa vie à l'hôpital, malade, au sous-traitement, avec donc une diminution de concentration, de mémorisation. Donc, c'est fichu, quoi. Donc, c'est vrai que cette phrase, ce livre, c'était une catastrophe, quoi.
Oui.
Et ensuite, je voulais revenir sur ce que vous disiez au niveau des étiquettes, parce que ça, je trouve ça très grave, et je trouve qu'on continue à mettre beaucoup d'étiquettes sur le front des enfants, notamment à l'école. Hein, ils sont ceci, ils sont TDAH, ils sont autistes, ils sont hyperactifs, et ils ont tous des étiquettes, et je trouve ça super super dangereux, parce que justement, avec cette étiquette, peut-être ça rassure les enseignants, l'école, mais je trouve ça catastrophique pour les enfants parce qu'ils sont enfermés là-dedans. Et quand moi j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience dans l'enseignement et on voit bien que les enfants, ils évoluent, ils trouvent des solutions. Si on leur donne confiance en eux, si on les encourage, si justement on leur met pas d'étiquette, ils vont évoluer, ils ont des richesses extraordinaires. Oui. Donc je trouve ça tellement dangereux, dangereux ces étiquettes que je suis complètement d'accord avec vous. Et aussi sur le facteur dont vous parliez du stress pendant les tests. Moi, je sais que par exemple dans nos classes, on fait jamais de tests et on me demande toujours mais comment vous validez. Et en fait, quand on connaît bien ses élèves, quand on fait une pédagogie individualisée, on sait exactement ce que savent nos élèves, ce qu'ils savent pas, etc. Et avant, je faisais des tonnes de tests et on se rend compte qu'ils perdent tellement leurs moyens qu'il y a des enfants qui sont beaucoup en dessous de leur niveau et que ça reflète jamais les niveaux en fait. Donc là, je pense qu'il faudrait vraiment changer aussi la façon d'évaluer justement les enfants. Parce que là encore, ça les enferme, quoi.
Et dans ce que vous disiez tout au début, en parlant de votre fille, ce qui est terrible dans tout ce jeu avant 6 ans, c'est que ça influence le regard que l'enfant porte sur leur enfant, justement. Et quand un parent a intégré que l'enfant ne pouvait pas faire telle ou telle chose parce qu'il a dépassé l'âge, soit les parents prennent le risque d'abandonner, puisque les textes le disent, et soit il risque de transférer une impossibilité que le gamin reçoit 5 sur 5. Et dans tous les cas, c'est extrêmement dangereux.
Oui, bien sûr. Et alors, maintenant qu'on a parlé de toutes ces fausses croyances, j'aimerais qu'on échange un peu plus sur ce qu'est véritablement le cerveau de l'enfant. Alors, vous l'avez dit, c'est très complexe et on a parlé d'intelligence et je suppose que c'est très compliqué du coup de donner une définition figée de l'intelligence. Mais j'aimerais, Pascal, d'un point de vue des neurosciences, que vous nous expliquiez votre vision de l'intelligence de l'enfant.
Je crois que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Ce que je sais, c'est que c'est tout sauf le QI. Mais je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Et je ne sais pas qui peut donner une définition de l'intelligence. Alors oui, j'ai envie de dire, il y a des neuroscientifiques qui donnent des définitions de l'intelligence. Mais je crois que dans le monde, quand on lit la littérature scientifique en neurosciences, je crois qu'on a réussi à trouver à peu près 300 définitions différentes de l'intelligence, toutes par des neuroscientifiques. Et donc, donner une définition de l'intelligence, c'est déjà avoir une orientation scientifique. Et alors c'est une orientation, mais je crois que si on veut trouver une définition générale, il faut se retirer de son champ d'action, de son champ d'expertise. Et sincèrement, je ne sais pas ce qu'est l'intelligence. Je crois que j'ai pas envie de la définir parce que ça serait extrêmement restrictif. Je ne sais pas répondre à cette question-là.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer les points clés à connaître sur le cerveau de l'enfant? Alors, je suppose qu'il y en a une multitude, mais c'est pour nos auditeurs qui découvrent les neurosciences. Quels sont les principaux facteurs à connaître sur le cerveau de l'enfant ou les grandes fonctions du cerveau de l'enfant à connaître pour justement bien réussir à s'adapter à cette complexité-là?
Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses. Je crois qu'il y a un élément très important à comprendre parce que ça a constitué vraiment une rupture de paradigme. On est entré à partir de ce moment-là dans une autre représentation du développement de l'enfant. C'est ce qu'on appelle le cerveau algorithmique ou le cerveau bayésien. C'est Stanislas Dehaene qui a particulièrement travaillé sur cette théorie-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'enfant naît avec un câblage neuronal qui est déjà établi à sa naissance. C'est l'évolution darwinienne. C'est-à-dire on a pensé qu'un enfant avait un cerveau vide, que lorsqu'il naissait, il naissait tabula rasa, et que finalement l'éducation, l'apprentissage consistait à remplir son cerveau, si je veux garder cette image-là. Et ça, nous ne pouvions pas le savoir il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et donc, ça veut dire quoi que l'enfant naît avec un câblage neuronal? Il y a une phrase de Jacques Meller que j'aime bien citer, qui est un psychologue cognitiviste qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois maintenant, qui disait ceci, il nous disait finalement, nous sommes un corps muni d'une anatomie, avec des organes spécialisés, et de même, dit-il, nous venons au monde avec une anatomie de l'esprit, propre à notre espèce, autrement dit, une série de fonctions cognitives dont l'architecture générale est déjà en place à la naissance et qui s'épanouit au contact d'un environnement donné. Ce qui veut dire que bébé à sa naissance a déjà dans son cerveau toutes les fonctions nécessaires à la compréhension de son environnement. Et donc, il va se conduire comme un petit chercheur. Donc, que font les chercheurs? Ils ont des intuitions qu'ils vont vouloir vérifier. Et donc, ils posent des hypothèses, ils vont expérimenter et ils ont des réponses. eh bien, le nos cerveaux en général, mais le cerveau du bébé se conduit déjà comme ça. Il a des neurones qui se conduisent comme des algorithmes, mais des algorithmes qui sont capables d'anticiper le monde. C'est dans ce sens-là que Stanislas Dehaene parle de cerveau bayésien ou de cerveau statisticien. Donc, l'enfant, j'espère que je vais être claire, mais l'enfant a une intuition, il projette son intuition vers son objet d'intérêt, donc sur le réel, c'est son réel à lui, et le réel va lui retourner une réponse qui va valider ou invalider son intuition. Et d'autant plus que le cerveau est capable après de réaliser une synthèse de toutes les informations disponibles à chaque fois qu'il traite d'un événement du monde extérieur. Donc le cerveau est capable de compiler toutes ces informations. Donc le cerveau ne cesse de projeter des hypothèses possibles de traitement de l'information et de résolution de problèmes. Et donc le bébé, qui a cette capacité absolument incroyable, donc passe des observations de son environnement et il en fait des règles générales. C'est ce qu'on appelle apprendre. C'est comme ça qu'on apprend. C'est que l'on projette des choses et le réel nous retourne une réponse valide ou invalide. Et donc, si c'est invalide, eh bien, on oriente nos intuitions, nos hypothèses vers d'autres possibles. Et nous faisons ça des milliers de fois tous les jours depuis que nous sommes bébés. Et ça ne s'arrête jamais.
Et ce que nous apprend tout ça, c'est que la posture de l'adulte est donc fondamentale dans cet apprentissage de l'enfant.
Oui, bien sûr, c'est tout à fait fondamental. Mais donc la posture, ça veut dire c'est une posture de développement. Donc quand on sait que le cerveau fonctionne comme ça, on ne peut plus considérer l'apprentissage dans une logique cruche-pot. Je sais pas si je me fais comprendre quand j'utilise cette logique-là, mais
c'est très clair.
On ne peut plus être comme ça puisque l'enfant porte en lui un système d'élaboration d'hypothèses absolument extraordinaire. Donc il faut partir de ces hypothèses et comme font les chercheurs et l'aider à les mettre en mots, à les verbaliser, à les expérimenter et l'aider à comprendre pourquoi son hypothèse ou son intuition ne convient pas dans un type d'apprentissage particulier. Et d'abord c'est toute une activité interne, cognitive interne qui est extrêmement riche pour apprendre tout au long de la vie et ça veut dire que la démarche pédagogique est inverse.
Oui, bien sûr. Et alors, j'ai regardé l'une de vos conférences et vous avez dit cette phrase que je trouve magnifique, un regard construit autant qu'il détruit. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela du point de vue des neurosciences ?
Alors oui, alors c'est une belle phrase quand elle va vers l'idée du développement plutôt que la destruction, parce que je crois que je peux le dire comme ça, mais je crois qu'une des pires violences scolaires, c'est de porter un regard sur l'enfant qui signifie tu n'es pas doué, tu peux pas apprendre, t'as atteint tes limites. Je suis pas sûre que l'on puisse se remettre d'un tel regard. De la même façon, j'ai des patients devenus grands, des enfants devenus grands, qui ont vécu des scolarités assez compliquées avec l'idée qu'ils n'étaient pas intelligents. Ça sont souvent des gens d'ailleurs qui courent après les diplômes, beaucoup beaucoup quand ils sont grands. Puis se rendre compte que quand ils ont un doctorat ou deux ou plein de diplômes, finalement, ils n'ont pas un meilleur regard sur eux-mêmes. Donc, ça veut dire qu'on peut contourner, on peut contextualiser, on peut intellectualiser, mais je crois que c'est une blessure dont on se débarrasse avec grande difficulté. Il y a des enfants qui, tous les jours, confrontent le regard des adultes qui ne les considèrent pas comme des personnes intelligentes. Et se considérer intelligent, c'est tout aussi important que d'avoir une bonne image de soi, ou de se considérer comme aimable, comme sociable. On ne grandit pas sans le regard. Le regard aide à grandir ou prend le risque de détruire. Et ça se passe de mou souvent. Et je sais pas si les neurosciences ont à conseiller une posture particulière. Je sais pas si c'est leur rôle, mais en revanche, les neurosciences ont le rôle d'informer. Et je crois que un des messages importants, c'est de dire que chaque enfant, en fait, qu'il va apprendre tout au long de la vie. Et apprendre, c'est pas top départ, je suis à la maternelle, et top arrêt, je suis en terminale ou ailleurs ou à l'université. C'est un développement tout au long de la vie. Et en tant qu'adulte, je crois qu'il s'agit d'encourager les enfants à croire en leurs capacités et surtout à ne jamais douter de leur potentialité.
Oui, vous avez tellement raison. Et alors, on arrive déjà presque à la fin de cet échange passionnant. Mais j'aimerais qu'on revienne sur des conseils pour favoriser un bon développement cognitif de l'enfant. Alors, je sais que vous n'êtes pas une grande fan de donner une checklist à remplir. Et c'est pareil pour nous, donc c'est parfait. Mais j'aimerais bien tout de même que vous nous partagiez votre point de vue sur ce qu'un adulte, un parent, un enseignant peut faire pour aider au bon développement cognitif de l'enfant.
Oui, alors je crois que évidemment on peut dire, parce que je crois que c'est une réalité scientifique aujourd'hui, pour favoriser un bon développement, l'enfant doit pouvoir varier sa nourriture. Ça veut dire que la nourriture contribue au développement psychomoteur et cérébral. Et pour grandir, ça veut dire que l'enfant a besoin de glucose, d'oméga 3, comme les huiles de noix, les poissons gras, le saumon, le maquereau, les noisettes, etc. Il a besoin aussi d'oméga 6, comme l'huile de tournesol, de l'avocat, de maïs. Et nous savons aujourd'hui que les oméga 3 sont indispensables pour le développement de la mémoire, par exemple. Les recherches scientifiques sont en mesure aussi de confirmer que la faible consommation d'oméga 3 et 6 a des effets négatifs sur le fonctionnement cognitif et les comportements émotionnels. De la même façon, la Fédération sur la recherche sur le cerveau précise par ailleurs que l'alimentation trop riche en graisse, les mauvais gras, hein, comme la charcuterie, la friture, la mayonnaise, et le sucre auraient un effet délétère sur la mémoire, en particulier pour la première année de vie et à l'âge de l'adolescence. Et ça, c'est un petit peu compliqué de faire comprendre ça aux adolescents. Mais oui. Et l'enfant a aussi besoin d'une pratique régulière d'activité physique. On sait aujourd'hui, on connaît aujourd'hui le lien entre l'activité physique et le développement neuronal, ou la régulation de certaines pathologies comme la maladie de Parkinson, par exemple. Donc, l'activité physique est indispensable, d'abord parce qu'elle a un avantage, elle permet de réduire le stress, et la réduction du stress favorise le sommeil. Donc, activité physique, et puis la troisième chose, qui peut paraître étonnante, mais l'enfant a besoin de rapports sociaux. Il a besoin de se développer avec d'autres enfants, parce que ça lui permet de réguler ses comportements et de les adapter. Elle favorise ce qu'on appelle la flexibilité cognitive et comportementale. On n'apprend pas tout seul, on apprend avec les autres. Donc, ces trois points me semblent vraiment essentiels pour encourager ou favoriser le bon développement cognitif de l'enfant.
Oui. Et qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des écrans et de leur impact sur le cerveau ?
Alors, c'est un terme très général, en fait. L'écran, un écran, c'est un support. Donc, le support est un bon support. Mais ça dépend de l'usage qu'on en fait. Je crois qu'il y a réel danger si, par exemple, il n'y a plus de limite dans la durée. C'est important de dire aux enfants, voilà, tu as un temps, tu peux regarder ton écran de telle heure à telle heure. Mais si le temps consacré aux écrans les coupe de toute relation directe, je crois que c'est plutôt pas une bonne chose. Si ce temps grignote sur celui qu'ils devraient consacrer à leurs études ou à leurs devoirs, de la même manière, c'est dangereux. Si évidemment ça provoque un manque de sommeil, eh bien ça va produire de l'agressivité, de l'addiction. Donc il est évident que, encore une fois, la notion de temporalité est essentielle. Et je dirais justement, comme toujours avec les enfants et les adolescents en particulier, d'insister sur la nécessité de leur apprendre à savoir s'arrêter, à prendre du recul, à avoir une lecture sur leur propre comportement. Je crois qu'il faut s'inquiéter quand l'enfant développe de l'agressivité si on lui enlève son portable. Ça veut dire que c'est déjà compliqué. Et dans ce cas-là, je crois qu'il faut pas. Les parents disent oui, non, mais si je lui enlève son portable, il est très agressif. Je dis mais oui, justement, parce qu'il est agressif, il y a un truc qu'on appelle débrancher. Et même si il est très très agressif, si on débranche son ordinateur, je crois que réellement c'est une question de. Ce sont des questions. J'arrive pas à trouver le mot qui conviendrait, mais ça veut dire que là, il est déjà en danger et qu'il est question de soins en fait. Il est très important de limiter si lui n'est plus capable de le faire et réapprendre avec lui à gérer cette temporalité. Donc non, je crois que les écrans sont une bonne chose, mais c'est encore une fois c'est cette temporalité à gérer qui est sans doute très compliquée.
Oui, c'est certain. Merci beaucoup Pascal pour ce partage passionnant et pour ce message que vous transmettez au plus grand nombre. C'est tellement vrai et c'est tellement ce dont l'école a besoin de comprendre. Donc on va terminer là-dessus et j'aimerais relire cette dernière phrase. Je sais plus si je l'ai trouvée dans votre livre ou sur une conférence, mais que vous avez partagée au plus grand nombre. Vous avez dit qu'il faut croire en l'éducabilité de l'enfant sans l'ombre d'un doute.
Oui.
Et je trouve ça magnifique. Alors, merci beaucoup pour votre temps.
Merci à vous, merci à vous.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcasts. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclaibes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.